Ce psaume 1, à la première lecture, m'a toujours laissé une impression mitigée, je dois bien l'avouer, c'est-à-dire une impression à la fois merveilleuse et en même temps un petit peu insupportable. Merveilleux, ce psaume, il l'est, ne serait-ce que par son premier mot, heureux. Il est assez extraordinaire, en effet, que le premier mot du livre des psaumes soit ce mot heureux. C'est une bonne nouvelle. Et c'est aussi d'ailleurs le premier mot de l'enseignement public du Christ d'après l'évangile de Matthieu, qui commence au chapitre 5 avec les béatitudes, c'est-à-dire 8 ou 9 fois heureux. Eh bien, j'aime ce message de la Bible et ce message de l'évangile qui commence effectivement par le bonheur. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il ne se conclut pas par le bonheur. Il ne dit pas « Malheureux êtes-vous, vous devez peiner, charger, être chargé, travailler, vous souffrir et vous sacrifier » et comme si le dernier mot était heureux. Mais là, le premier mot est heureux. C'est une bonne nouvelle qui s'ouvre sur la notion même du bonheur. Et je trouve que ça, c'est bien. D'ailleurs, vous savez que le mot « évangile » veut dire étymologiquement en grec « bonne nouvelle ». Donc effectivement, je crois que il est essentiel que cet évangile soit pour nous une bonne nouvelle. Et nous devons, chaque fois que nous lisons l'évangile, que nous lisons la Bible, et chaque fois même que nous la prêchons ou que nous l'entendons prêcher, nous dire c'est une bonne nouvelle. Et il y a là quelque chose qui peut nous rendre heureux, qui peut nous libérer, nous rendre joyeux, nous mettre debout, nous mettre en marche et nous redonner le goût, la joie et toute la saveur de la vie. Donc oui, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Nous sommes créés pour être heureux et nous pouvons l'être, je crois, dans toute situation. Parce que ce bonheur qui nous est offert par l'Évangile ou par le Christ, par Dieu lui-même, c'est un bonheur qui est au-delà des peines ou des joies terrestres. C'est un bonheur qui est au-delà du fait que l'on rit ou que l'on pleure. C'est ainsi que dans les Béatitudes, Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent », ce qui semble tout à fait paradoxal, mais en fait parce que le bonheur évangélique, c'est une attitude beaucoup plus profonde que le fait de rire ou de pleurer, que d'avoir de la chance ou de la malchance, que d'avoir des avantages dans sa vie ou que d'avoir des épreuves. Ce bonheur, c'est la paix, c'est l'accomplissement de soi peut-être, c'est l'harmonie, c'est la plénitude d'une vie en marche. Puisque vous savez en effet que ce mot « heureux » dans la Bible vient d'un mot hébreu qui veut dire « être en marche ». Donc le bonheur, c'est une dynamique, c'est d'être en route, c'est d'avancer, c'est d'être en marche et c'est d'être dans un cheminement. Et c'est cela qui est fondamental. Alors donc, le premier mot du livre des psaumes, comme le premier mot du Christ, c'est « heureux ». Et ce bonheur, le psaume 1, nous en donne en quelque sorte le secret. Le centre même du psaume le dit, il dit que le sens fondamental de ce bonheur, c'est dans la Torah, c'est-à-dire dans la Bible, dans ce que nous appelons un peu par extension la parole de Dieu. Parce que, en effet, je crois que là, il y a le cœur même d'un bonheur possible. Et il y a dans la parole de la Bible une puissance de vie, une puissance de bonheur, une puissance de paix, de joie qui est absolument extraordinaire. Parce que cette parole qui nous est donnée dans la Bible, c'est une parole créatrice, c'est une parole qui fait vivre, c'est une parole qui fait grandir. Ce n'est pas une parole neutre qui nous intéresse ou qui nous ennuie, mais c'est une parole qui agit à l'intérieur même de celui qui la lit et qui la médite pour le transformer et pour le rendre heureux, je le crois. Et d'ailleurs, regardons bien ce que dit le psaume, parce qu'il faut toujours, quand on lit la Bible, regarder très en détail comment les choses se passent. Le psaume donne le mode d'emploi de cette parole. En effet, il ne dit pas « heureux celui qui connaît bien la Torah », comme si il s'agissait d'une connaissance intellectuelle, comme s'il s'agissait de bien connaître l'Évangile, de bien connaître l'Écriture, comme s'il s'agissait d'avoir suivi un bon catéchisme et de tout savoir sur la religion. Non, on peut connaître tout si l'on veut, mais la source du bonheur n'est pas dans la connaissance. Il s'agit d'autre chose. Le psaume ne dit pas non plus « Heureux celui qui fait tout ce que la Torah réclame ». Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'une source d'obéissance morale, Il ne s'agit pas de dire « heureux celui qui fait ce que demande la Bible ». La Bible n'est pas un catalogue d'actions à faire et on devrait cocher tout ce que l'on a fait pour pouvoir enfin arriver, si on peut l'accomplir, au bonheur. Et donc, il ne s'agit pas d'une obéissance à des commandements. Le psaume ne dit pas non plus « heureux celui qui croit à tout ce que dit la Torah ». Il ne s'agit donc pas non plus dans la Bible d'un traité de dogmatique. Il ne s'agit pas de croire tout ce qui est dans la Bible, ni d'être d'accord avec tout ce qui est écrit. Là non plus ne se trouve pas la source du bonheur. Mais le psaume dit « heureux celui qui met son plaisir dans la Torah et qui la médite jour et nuit ». Oui, voilà ce qui compte, c'est méditer cette parole, c'est-à-dire réfléchir sur elle, la ruminer, je dirais, la tourner, la retourner dans son cœur. Il ne s'agit donc pas, je dirais, de lire l'Écriture comme on lit un roman ou comme on lit un code civil ou comme on lit un traité de bonne manière une dogmatique. Mais il s'agit de la méditer, c'est-à-dire de la lire, de la relire, d'en goûter le sens, de la faire tourner dans son cœur, de la lire lentement, très lentement, mot à mot, je dirais, et de laisser cette parole pénétrer en soi pour qu'elle nous transforme. C'est une lecture méditative qui compte pour l'Écriture, ce n'est pas une lecture intellectuelle. Et c'est quand on lit la Bible ainsi qu'elle va pouvoir œuvrer en nous-mêmes et nous transformer intérieurement en mettant en nous un ferment de vie et de joie. Et par ailleurs, cette parole, il faut aussi l'aimer. C'est ce que dit le texte. « Heureux celui qui met son plaisir dans la Torah et qui la médite jour et nuit. » Il faut l'aimer, c'est-à-dire ne pas rester dans un rapport uniquement intellectuel à cette écriture, mais y mettre son cœur, c'est-à-dire s'investir dans cette parole, la mettre en soi pour entrer dans une sorte de véritable relation d'amour et de dialogue avec cette parole. Et je crois que celui qui s'engage dans ce type de relation avec l'Écriture, eh bien, certainement, il en sort en quelque sorte transformé. Et ce qu'opère, je dirais, cette méditation cœur à cœur avec l'Écriture, le psalmiste la décrit d'une façon assez remarquable. Et c'est là que nous allons trouver ce qui est pour le psalmiste la nature réelle de ce bonheur promise peut-être au premier verset. Parce que c'est bien de cela dont il est question. Le bonheur et ce que peut accomplir en nous cette méditation de l'Écriture, le psaume dit que c'est d'être comme un arbre près d'un courant d'eau. C'est ce que dit le psaume, celui qui médite sa parole jour et nuit, il est comme un arbre près d'un courant d'eau. C'est une image assez intéressante, parce que l'arbre près d'un courant d'eau, c'est tout sauf une image statique. Il y a deux dynamiques là-dedans. Il y a d'abord l'eau qui coule. Je ne voudrais pas faire du psaume une illustration de la philosophie d'Héraclite qui dit que tout coule, mais néanmoins, je pense quand même qu'il y a dans la pensée biblique l'idée que rien ne demeure à part Dieu et que tout coule. Et même la présence de Dieu est comme un ruisseau qui coule. Et donc c'est une réalité que l'on ne possède jamais et qui est toujours différente, mais simplement qui coule à nos côtés et qui est une source de vie. Quant au fidèle, il est comme un arbre planté sur le bord de ce courant d'eau. Et l'arbre aussi, ce n'est pas une réalité dynamique. L'arbre, c'est quelque chose qui est en croissance. C'est quelque chose qui grandit. L'arbre, c'est une réalité assez curieuse qui puise sa force ailleurs et qui en profite pour grandir et qui, à partir de là, peut verdir, faire un feuillage et produire du fruit, ce qui est en effet promis par le psaume. Alors en effet, il y a, je crois, dans l'Écriture, quelque chose qui nous aide à grandir, quelque chose qui nous aide à progresser. Alors certes, cela ne se fait pas du jour au lendemain, et là encore, il y a un enseignement fondamental dans cette image du psaume 1, c'est qu'il ne dit pas que le croyant est comme un bambou ou une herbe qui pousse de 10 cm par jour sur le bord d'un ruisseau, mais comme un arbre. Et un arbre, ça pousse extrêmement lentement. Si bien d'ailleurs que si vous regardez un chêne, vous pouvez revenir une semaine après ou un mois après, il ne vous semblera pas qu'il ait poussé ou qu'il ait grandi. Et pourtant, Si vous regardez un chêne qui a été planté le jour de votre naissance, vous vous rendrez compte qu'il est devenu un bel et grand arbre. Enfin, à moins que vous n'ayez 6 mois aujourd'hui. Mais si vous êtes aussi vieux que moi, et j'ai vu l'exemple il n'y a pas très longtemps, le chêne planté à ma naissance est devenu un arbre énorme. Et donc, effectivement, la foi est de cet ordre-là. Notre contact avec l'Écriture produit parfois des révolutions, des révélations, des chocs dans notre existence. Mais le plus souvent, il n'en est pas ainsi. Le plus souvent, cette Écriture que nous méditons tous les jours, que nous écoutons, que nous aimons, que nous relisons et relisons, eh bien, elle est comme ce courant d'eau qui passe à nos pieds et qui fait que nous grandissons très lentement, progressivement, mais que nous en finissons tout de même transformés. Ce bonheur, c'est donc cela, peut-être. C'est d'être en croissance. C'est de s'élever, c'est de grandir, c'est d'avoir des feuilles qui montent, c'est de fructifier, c'est-à-dire d'avoir une certaine possibilité de fécondité dans sa vie. Le bonheur, c'est que notre existence donne naissance à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose qui nous transcende et à quelque chose que l'on soit capable de donner à d'autres. Parce que l'arbre, en effet, donne son fruit en son temps. Et le fruit, c'est quelque chose qui n'appartient pas à l'arbre. Le fruit, c'est quelque chose qui fatigue l'arbre, mais qui ne lui profite pas. Mais le bonheur, c'est ça, c'est de donner quelque chose qui nous dépasse et de ne pas être un système en vase clos qui ne sert qu'à lui-même, mais de puiser une énergie qui nous fait grandir et qui nous permet enfin de redonner. Et pourtant, si tout cela est bel et bien, et je crois qu'il y a là un enseignement très essentiel et fondamental, néanmoins, il y a quelque chose qui me dérange un peu dans ce psaume. C'est que j'ai un petit peu triché en vous le commentant, puisque j'ai passé directement au centre du psaume. Alors que le début du psaume commence par des choses négatives. Heureux l'homme qui ne va pas dans le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas dans le siège des moqueurs. Eh bien, il y a effectivement au début des commandements négatifs, comme si être heureux, c'était ne pas faire certaines choses, c'était en éviter d'autres. Et j'ai trouvé qu'on est loin, d'une certaine manière, de la prédication du Christ, qui est fondamentalement positive. Le Christ ne dit pas « Vous serez heureux si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, si vous évitez encore ceci ou cela. » Mais il dit « Heureux si vous mettez cela en pratique. » Il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont doux, heureux les humbles. » Et le Christ donne un commandement qui n'est pas négatif, mais qui est positif. « Aime ton prochain et aime Dieu de tout ton cœur. » Alors donc, pourquoi tout à coup y a-t-il quelque chose de négatif, en quelque sorte? On peut penser que, d'abord, le psaume n'a pas entièrement tort. Parce qu'en effet, il y a quand même dans notre vie quelque chose d'essentiel qui consiste à savoir éviter certains pièges. Et en effet, il faut s'écarter du mal en quelque sorte. Et peut-être que l'excès d'une certaine prédication chrétienne serait d'oublier qu'il y a aussi dans l'Évangile une certaine exigence, c'est-à-dire des choses à ne pas faire. Il y a aussi dans l'Évangile des mises en garde. Et il ne faudrait pas faire de l'Évangile une sorte de discours, je dirais, tout rose et béni oui-oui, en disant « Voilà, faites ce que vous voulez, de toute façon, tout est pardonné, rien n'est interdit, rien n'est dangereux, rien n'est mauvais, rien n'est pervers, rien n'est délétère, mais simplement, aimez, sentez-vous pardonné, tout ira bien. » Je crois qu'il y a quand même, et même dans l'Évangile, des exigences, et qu'il y a toujours quelque chose qu'il faut éviter dans notre existence pour rester sur le chemin de l'Évangile. Apparemment, d'après ce psaume, la mise en garde me semble assez intéressante. Il dit que ce qui est dangereux et mortifère dans notre vie, c'est 3 choses. C'est d'abord de marcher dans le conseil des méchants, c'est-à-dire de choisir pour mode, comme ligne directrice dans sa vie, un système de valeurs qui soit pervers. Et donc, il faut faire attention, c'est le premier point, à ce que l'on choisit comme conseil et ce que l'on choisit comme ligne de vie et comme ligne directrice, c'est-à-dire comme, comme valeur dans notre existence. Donc prenez garde, il y a effectivement des convictions fondamentales, je dirais, dans l'existence, des valeurs fondamentales, des modes de vie qui finalement risquent de conduire à notre malheur. Et il faut choisir, je dirais, des bonnes valeurs. Alors cela, dans le protestantisme, nous savons faire. On prêche les valeurs, on dit que les protestants ont des valeurs, et nous savons trouver dans l'Évangile les valeurs évangéliques, et nous pouvons dire qu'effectivement, il faut essayer de vivre selon le conseil, non pas des méchants, mais selon les conseils de la générosité et de la bonté évangélique. Le deuxième point, c'est que il faut, je dirais, heureux celui qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs. Là aussi, c'est intéressant parce que il ne dit pas heureux celui qui ne passe jamais par le chemin des pécheurs. Nous y passons tous, plus ou moins, de temps en temps, je dirais occasionnellement ou régulièrement dans ces chemins de pécheurs. Mais il dit heureux celui qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs. Et là encore, il faut faire très attention aux mots précis qui sont donnés. Parce qu'en effet, ce qui est dangereux, c'est de rester dans les mauvais chemins et de ne rien faire pour en sortir. On peut être parfois dans des mauvais chemins, mais il faut essayer d'en sortir, ne pas y rester. Et donc, heureux celui qui ne reste pas dans les chemins des pécheurs, mais qui sait le reconnaître et qui a l'intelligence d'essayer d'en sortir. Et quant à la troisième chose, c'est heureux celui qui ne s'assied pas dans le siège des moqueurs. C'est-à-dire celui qui ne s'installe pas définitivement dans le rôle du moqueur. Alors le siège des moqueurs, le banc des moqueurs, là encore on pourrait trouver que c'est assez bénin comme défaut, et on ne voit pas très bien en quoi cela pourrait nuire à notre bonheur que d'être parfois un peu moqueur, qui ne l'est pas. Mais je crois que cela montre qu'il y a quelque chose de très dangereux dans la moquerie profonde. C'est-à-dire, il serait dangereux de s'installer dans une sorte de rôle négatif qui consiste à dénigrer tout et à tout voir sous le mauvais angle. C'est, je crois, une véritable maladie de l'âme, cela, que de tout voir d'une façon négative et de tout dénigrer et de ne pas être capable de reconnaître la valeur des choses et la valeur des gens. Il y a dans l'amour auquel nous sommes invités une capacité justement à voir le bien et à ne pas voir le mal. Parce que quand on voit le mal, eh bien finalement on se rend soi-même malheureux parce qu'on sélectionne le mal pour le garder et on se fait une sorte de trésor négatif qui n'est qu'une chose pleine de pouvoir de malheur et de pouvoir de mort. Pour être heureux, il faut faire autre chose. Il faut en effet trouver, je dirais, une dimension qui permet de voir le positif et qui permet d'éviter de rester, je dirais, dans le chemin des moqueurs et qui permet d'éviter de marcher selon le problème des méchants. Cependant, même si cela ainsi peut être justifié, le psaume reste quand même aussi difficile parce que ces méchants, ils reviennent après, à la fin du psaume. Ils reviennent, et pas avec des paroles bien douces. Ils refont surface, et on dit que ces méchants, ils sont punis, en quelque sorte, et que leur chemin se perd. Alors peut-on vraiment comprendre et accueillir de tels propos, positivement dans notre foi chrétienne, cette espèce de jugement à l'égard des méchants? Sont-ils fondamentalement incompatibles avec notre foi évangélique, qui annonce le pardon et l'accueil même des pécheurs? Eh bien, je pense qu'il faut regarder de plus près avant de juger trop vite et de dire que ce psaume ne serait pas évangélique. D'abord, il faut dire qu'à première vue, ce psaume est très dualiste. Il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a, je dirais, les bons qui vivront éternellement et il y a les méchants qui seront perdus. Mais il faut se méfier d'une telle apparence. Et il faut d'ailleurs toujours se méfier quand la Bible semble trop simple. Parce qu'en effet, ce beau tableau des bons et des mauvais, il est clair, mais il est trop clair. Et je dirais même qu'il est inassimilable tel quel. Le problème, c'est le suivant. C'est que la description qui est faite du méchant est tout aussi impossible que celle qui est faite du bon. On nous dit que le bon, il médite la parole de Dieu jour et nuit. Alors maintenant, je vais vous dire, trouvez-moi un seul bon sur terre. Qui est capable de méditer la parole la Torah, jour et nuit, sans jamais s'arrêter. Personne. Même le Christ ne l'a pas fait, puisque parfois il dormait, ou parfois il mangeait, parfois il faisait d'autres choses. Mais donc même le Christ n'a pas médité la parole de Dieu jour et nuit. Par conséquent, je dirais, il n'y a sur terre aucun bon. Et quant au méchant, là encore c'est assez intéressant, parce que le méchant, je dirais, il est décrit de telle manière que personne ne peut correspondre à cette image. Il est impossible d'être à la fois assis avec les moqueurs, debout avec les pécheurs, et encore moins d'être en même temps en marche avec les méchants. On ne peut pas à la fois être assis et en marche. Et donc personne ne peut être absolument méchant dans ce monde. Personne ne peut cumuler toutes les erreurs qui sont ici dénoncées, d'une manière permanente en tout cas. Et donc je crois que ce psaume est finalement intenable dans sa simplicité. Et on ne peut pas le lire tel quel, en disant « il décrit les bons et il décrit les mauvais, les bons seront sauvés, les mauvais seront perdus ». C'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule conclusion, je crois, qui s'impose, et une seule manière possible de lire ce psaume, c'est de comprendre que dans ce monde, il n'y a personne qui soit ou totalement juste ou totalement injuste. Certes, nous faisons parfois un peu de mal, certes, il nous arrive de nous moquer, il nous arrive d'aller selon le conseil des méchants, il nous arrive aussi d'être dans des mauvaises voies, c'est vrai, mais pas tout le temps quand même. Et il nous arrive aussi, même si ce n'est pas jour et nuit, de méditer la Torah. Et donc finalement, nous sommes un petit peu les deux. Et même si nous n'y mettons pas tout notre cœur, cette Torah, nous y mettons quand même un petit peu notre cœur. Et même si nous l'oublions de temps en temps, cette parole, nous l'aimons bien, et nous mettons notre plaisir en elle. Et donc la conclusion que nous devons en tirer, c'est que non seulement personne ne peut être déclaré entièrement juste, mais que personne ne peut être déclaré entièrement mauvais. Et que nous sommes, en fin de compte, un peu des deux. Il y a en nous du juste, il y a en nous de l'injuste, et je crois que le psaume 1 ne peut fonctionner que dans cette perspective. Et donc, quand il s'agit de jugement, il ne s'agit pas de mettre d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants, d'un côté les pieux, d'un autre côté les impies, mais de faire une sorte de jugement entre le bien qui est en nous et le mal qui est en nous. C'est qu'en nous, il y a le bon et il y a le mauvais. En nous, il y a le moqueur et celui qui aime la parole. Et donc, il y a ces deux choses-là qui sont en même temps, toujours, qui cohabitent en nous. Et à partir de là, le psaume nous dit deux choses intéressantes, je crois. La première, c'est que d'abord, les choses ne sont pas figées. Et on dit que le juste, il est comme un arbre qui grandit. L'arbre qui grandit, je vous l'ai dit, c'est quelque chose de dynamique. Et donc l'important, ce n'est pas d'être ceci ou cela, c'est d'être un arbre qui grandit. C'est-à-dire de pouvoir avancer, de pouvoir progresser, d'être en croissance. Et cela est toujours possible quand on a près de soi une source de vie, un enseignement, une parole qui peut nous faire grandir. Et je crois que la parole biblique est justement ce qui peut nous aider à grandir. Et la deuxième chose que nous dit ce psaume à propos du jugement, c'est que ce jugement, il peut sembler désagréable et un peu condamnant, mais néanmoins, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas tellement pour dire qu'il y aurait une punition de mort pour les pécheurs, puisque, je vous l'ai dit, personne ne l'est complètement, mais que le mal qui est en nous, lui, il est nécessairement condamné à disparaître. Le mal qui est en nous, il est comme, dit le psaume, comme la balle de paille emportée par le vent. Le mal qui est en nous, c'est une non-existence. Le mal qui est en nous, c'est quelque chose qui ne compte pas et qui ne vaut rien, en quelque sorte. Or, vous savez qu'il y a, dans la Bible, un seul mot pour dire le vent et l'esprit. Et donc, cette balle de paille emportée par le vent, c'est une image que je trouve du mal qui est en nous, qui est balayé par le Saint-Esprit, en quelque sorte. Cette présence de Dieu qui est en nous souffle sur nous et, en quelque sorte, chasse le mal qui est en nous comme quelque chose qui ne vaut rien et qui est envoyé au loin. Ce mal qui nous obsède, ce mal qui nous culpabilise, ce mal qui parfois peut nous sembler si lourd que nous le traînons comme un boulet, eh bien pour Dieu ce n'est rien. Il n'a pas d'importance, pas d'avenir. C'est de la paille. Et quand Dieu souffle dessus, il nous en libère, pour nous permettre d'avancer de nouveau. La seule chose qui est appelée à durer éternellement, c'est le bien qui est en nous, dit le psaume. La seule chose dont Dieu se souvienne, c'est la seule chose qu'il retient, c'est la seule chose qu'il sauve, c'est le bon qui est en nous. C'est le bien, c'est l'amour, c'est la fidélité qui se trouve en nous, et tout le reste est perdu. Ainsi, je ne vois dans ce psaume aucune condamnation de qui que ce soit, je n'y vois aucun châtiment éternel, je n'y vois pas de jugement culpabilisateur, mais au contraire, un chemin qui est un chemin de vie et un Dieu qui est pour nous source de croissance, d'éternité, de justice et de bonheur. Alors voyez-vous, ce psaume n'est pas le premier pour rien. J'ai l'impression qu'il résume assez merveilleusement toute la théologie des psaumes et d'une certaine façon toute la théologie de l'Évangile, qui est tout à fait dans le même sens. Le maître mot, je vous l'ai dit, c'est le bonheur. Et ce bonheur, s'il se fait un peu en évitant le mal, il se fait surtout dans la croissance. Et puis, il est promis à tous, avec l'aide de cette source extraordinaire de vie qui est en Dieu qui est présent dans sa parole, présent dans son esprit, présent dans tout ce qu'il opère dans nos intelligences et dans nos cœurs, et avec l'aide de cet esprit de Dieu et de ce souffle qui souffle sur nous, pour nous, et qui est comme un courant d'eau et un souffle d'air, à la fois source de croissance et de purification, je dirais. Avec cela, eh bien, nous avons une promesse d'éternité et une promesse de bonheur qui dure pour toujours, bien au-delà des chemins terrestres et du mal qui, lui, de toute façon, se perd. Amen.